L'un dans l'autre,
l'info qui vous engage, animée par
Perrine
et
Elsa.
Bienvenue dans cette nouvelle édition de L'un dans l'autre, le magazine d'info local de Radio B. Bonjour Elsa.
Bonjour Perrine, bonjour à toutes et à tous.
Cette semaine, nous continuons nos reportages auprès d'organisations qui mettent l'inclusion au cœur de leurs actions et cette fois, il s'agit du conseil départemental. En effet, le département, par le biais du soutien apporté aux bibliothèques du territoire, souhaite que chacun, chacune, avec ses spécificités, puisse accéder aux livres. On écoute un extrait de l'intervention de Marie-Christine Chapelle, vice-présidente du département déléguée au tourisme, au patrimoine et à la culture, lors de la journée du réseau des bibliothèques organisée le 26 juin.
Nous célébrons cette année les 20 ans de la loi pour l'égalité des droits et des chances, ou loi handicap. Et dans le prolongement du schéma départemental de développement de la lecture publique, adopté donc en 2022, nous avons voulu mettre l'accent sur l'accessibilité des bibliothèques. La lecture publique ne peut être un service d'excellence, un service utile, que si elle est un service de proximité, ouvert à chacun, sans distinction.
On retient déjà que dans l'Ain, il existe une volonté que les bibliothèques soient ouvertes à chacun, sans distinction.
Et pour aller plus loin sur le thème de l'inclusion dans le milieu de la culture, la différencier de l'inclusivité et comprendre comment favoriser un accès facile aux livres, nous avons rencontré Christine Loquet, enseignante, bibliothécaire et conférencière.
On écoutera aussi Mathilde Vergniaud-Chevalard, directrice de la bibliothèque départementale de l'Ain, et Sophie de Brabant, coordinatrice de la mission Bibliothèque inclusive, tout de suite après nos brèves.
L'un dans l'autre, les brèves. Des initiatives pour renforcer la filière bois dans l'Ain.
Alors que les entreprises manquent de main-d'œuvre et que les forêts font toujours face au problème des scolytes,
ces petits coléoptères qui creusent des galeries sous l'écorce des arbres, coupant ainsi la circulation de la sève,
on constate que ces insectes se propagent toujours dans les forêts, l'Ain étant le territoire le plus touché de la région. Fibois 01, l'interprofession de la filière forêt-bois de l'Ain, pour susciter de nouvelles vocations, met en avant des apprentissages.
Comme le brevet travaux forestiers proposé par le Centre Savoie-Bugey, seule formation forestière qui existe sur le département.
Autre action réalisée, celle d'inviter 500 collégiens à visiter le campus régional du bois, des chantiers de plantation ou de construction.
Pour, là aussi, créer des envies de professionnalisation dans le secteur des métiers de la forêt.
Et pour toucher un large public, va débuter l'événement « Vie ma vie de bûcheron » pour partir à la rencontre des bûcherons ou forestiers qui initieront à la gestion, à la préservation et à l'exploitation de la forêt. Lors de ces balades, ils pourront échanger sur des sujets liés au changement climatique, au risque incendie ou au programme de reboisement des forêts.
Les dates à venir sont
mercredi 23 juillet dans le Pays de Gex,
vendredi 25 juillet dans le Val-Romé,
mercredi 30 juillet à Saint-Étienne-du-Bois,
vendredi 1er août sur le plateau d'Hauteville.
Pour trouver les renseignements horaires et pour vous inscrire, rendez-vous sur fibois01.org.
Le pneu mobile pour dépister des maladies respiratoires.
C'est l'été, on se fait dépister. Ça pourrait être le slogan inventé par les Hospices civils de Lyon qui ont imaginé un camion doté d'un scanner. Inauguré en juin, ce véhicule va sillonner les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec pour objectif de déceler des cancers du poumon.
Il s'agit d'une première en France et l'idée de ce dispositif est d'aller vers des gens qui ne se feraient pas dépister spontanément.
Car lorsqu'il est détecté à un stade précoce, les chances de guérison de ce cancer sont considérablement améliorées. À bord du camion, différents examens seront réalisés, un scanner thoracique, un examen du souffle ou encore une évaluation du risque cardiovasculaire. Ce dépistage mobile est spécialement destiné aux personnes âgées de 50 à 74 ans, fumeurs ou anciens fumeurs.
Ce camion s'arrêtera dans l'Ain à Nantua les 24, 25 et 26 juillet et à Oyonnax les 29 et 30 juillet.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur pneumonologie-lyonsud.fr.
Radio B, les bonnes ondes.
Bourg-en-Bresse, la rue Abbé-Pierre change de nom.
Lors du dernier conseil municipal, les élus ont décidé à l'unanimité de modifier la rue Abbé-Pierre. Pour le maire de Bourg-en-Bresse, Jean-François Debat, il n'est plus possible qu'une rue de la ville porte ce nom. Pour maintenir un lien à l'association, la rue sera rebaptisée la rue des Compagnons d'Emmaüs. Plusieurs villes de France ont d'ailleurs décidé d'effectuer ce changement.
À noter qu'un autre changement de nom est à venir dans la ville. Le nouveau parc des Vennes, né de la réunion du parc Colette et de la place Jean-Jacques Rousseau, sera renommé parc Nelson Mandela.
L'un dans l'autre, l'interview.
Pour clore notre saison et finir notre série de reportages sur le thème de l'inclusion, nous avons assisté à la conférence de Christine Loquet dans le cadre de la journée du réseau des bibliothécaires du département.
Chaque année, la bibliothèque départementale de l'Ain organise une journée pour fédérer les bibliothécaires du territoire, former et ouvrir la réflexion sur un thème commun.
Cette fois-ci, la lumière était donc portée sur l'inclusivité. Mathilde Vergniaud-Chevalard, directrice de la bibliothèque départementale, nous explique ses différents rôles et les ressorts pour favoriser l'inclusivité sur le territoire.
Je suis Mathilde Vergniaud-Chevalard, directrice de la bibliothèque départementale de l'Ain. Donc, je suis responsable du service du département qui est en charge de soutenir le développement des bibliothèques sur le département de l'Ain. Donc, ça représente 215 bibliothèques que nous accompagnons au quotidien sur plein d'aspects.
Les bibliothèques sur le territoire, c'est tout un réseau. Comment c'est organisé ?
Les bibliothèques, elles sont soit municipales, soit intercommunales. On en a quelques-unes qui sont gérées par une intercommunalité. Et le service départemental est là pour les soutenir. Donc on n'est pas responsable de ces bibliothèques. On est là pour les aider, pour évaluer tout ce qui se fait sur le territoire et en faire une synthèse et imaginer ce qu'il faut faire de plus. Et donc on déploie, on a des services. Par exemple, on prête des collections aux bibliothèques. Donc il faut savoir qu'on a à peu près 250 000 documents qui appartiennent au département. Mais en fait, il y en a 75% qui sont soit dans les bibliothèques du territoire, soit même chez les gens. On a aussi un service de réservation, c'est-à-dire qu'on a 15 circuits de navettes. Et en fait, n'importe quel usager peut, par exemple, à Saint-Genis-Pouilly, se rendre à sa bibliothèque et demander à réserver n'importe quel document des collections départementales, parce qu'on a un catalogue en ligne. Et une fois que la réservation est faite par le bibliothécaire de Saint-Genis-Pouilly, même si le livre est à Trévoux ou à Pont-de-Vaux, bah, la bibliothèque départementale se débrouille pour l'emmener à l'usager qui est réservé. Voilà, donc ça représente 80 000 réservations à l'année. Depuis 2024, on propose aux usagers des bibliothèques d'accéder à ce qu'on appelle des ressources numériques, donc de la vidéo à la demande, de la presse et de la musique. Et ça, c'est la bibliothèque départementale qui le gère, c'est le département qui paye tout. Après, on a une partie de notre activité, c'est de conseiller dans plein de projets ou des difficultés. On fait aussi beaucoup de formation. On forme les bibliothécaires. Il y a à peu près 2200 bibliothécaires dans l'Ain. Donc tout ça, en fait, ça demande de bien connaître les bibliothèques du territoire. Donc ça veut dire qu'on a aussi beaucoup de rendez-vous. On fait à peu près 400 rendez-vous sur le territoire chaque année. On rencontre les élus, les responsables de la bibliothèque, parfois toute l'équipe de la bibliothèque. On n'est pas là pour donner une seule recette à tout le monde. Au contraire, on essaye d'être le plus fin possible dans notre analyse du contexte local.
Comment vous faites ? Comment, sur le territoire, vous repérez les besoins particuliers de chaque public ?
En fait, il y a toute une littérature professionnelle, des recherches qui sont faites, qui nous nourrissent. C'est-à-dire que les besoins des publics avec des troubles 10, on n'a pas besoin de conduire une enquête spécifique dans l'Ain pour savoir ce dont un public 10 a besoin. On a des recherches, des expériences dans d'autres bibliothèques qui nous permettent voilà, on peut se former, etc. Par contre, dans l'Ain, on essaye aussi de repérer des acteurs, c'est-à-dire des associations, des partenaires qui peuvent connaître ces publics-là ou qui peuvent les repérer, nous dire comment on fait pour les toucher. Donc tout l'enjeu, c'est aussi de les repérer, de travailler avec elles éventuellement ou aussi de les informer des premiers services qui sont disponibles. Voilà. Et après, nous, ce dont on a besoin, par contre, c'est de savoir quelles sont les bibliothèques, les équipes et les mairies qui sont partantes pour travailler sur cet aspect-là. Parce que la modernisation des bibliothèques, c'est un sujet sans fin. La question, c'est toujours qu'est-ce qui est prioritaire et voilà. Donc un projet qui réussit, c'est quand même un projet qui fait sens. Donc ce qu'on cherche, c'est à sensibiliser les bibliothécaires sur les enjeux. C'est tout le rôle d'une journée comme celle d'aujourd'hui. Il y a la sensibilisation, il y a la formation. Et puis après, on déploie des dispositifs. Par exemple, on s'est rendu compte que quand on fait une formation, les bibliothécaires font la formation, mais après, se lancer concrètement et faire en sorte de lancer un service, ça peut être compliqué. Donc le choix qu'on a fait notamment sur cette question des bibliothèques inclusives, c'est de créer vraiment des dispositifs. Les personnes qui sont formées, en fait, quand elles se sont inscrites, on leur a demandé si c'était en lien avec un projet. Donc il faut que le projet soit quand même un peu anticipé avant que la personne vienne se former. Ça veut dire qu'il y a un accord de l'équipe. Et après, par exemple, la collègue coordinatrice de la mission bibliothèque inclusive, elle les a aidés à se lancer, c'est-à-dire se dire... dans quel ordre je fais les choses maintenant. Et en plus de ça, il y a un travail de suivi et de réponse aux questions. C'est tout le rôle de l'accompagnement humain, d'aider à répondre à chaque bibliothèque en fonction de ses questions, de ses contraintes ou de ses possibilités. Il faut qu'on fasse en sorte qu'on mette en place les outils qui sont nécessaires pour que ça débouche sur un vrai service à l'habitant.
Donc on peut dire que l'inclusion, c'est vraiment un sujet phare au niveau du département, enfin une préoccupation en tout cas.
Pour être honnête, je trouve que l'équipe est très mobilisée sur beaucoup de sujets. Donc je pourrais pas dire que c'est le seul sujet, c'est pas vrai. C'est sûr qu'il y a une vraie mobilisation collective au sein de la bibliothèque départementale et c'est un vrai sujet. On a une vraie personne qui s'occupe de ça. Voilà. Après, on voudrait faire plein de choses, on voudrait avancer dans plein de sens différents, mais on verra à quel rythme. Parce que notre sujet, c'est aussi que s'assurer qu'il y a un service réel. On pourrait faire 15 formations par an, si derrière il n'y a pas de service réel aux habitants, on considère que ce serait un échec. Du coup, on prend le temps nécessaire pour que ça aboutisse concrètement aussi.
La bibliothèque départementale travaille donc en lien étroit avec le tissu associatif local et les collectivités, souvent porteuses de projets. Elle garde en ligne de mire sa mission de service public, permettre aux usagers des bibliothèques de bénéficier vraiment des investissements réalisés par le département pour la création de nouveaux services.
C'est dans ce cadre que Sophie De Brabant, coordinatrice de la mission Bibliothèque Inclusive, a pris son poste en 2023.
Elle nous présente ses missions et vous verrez que l'inclusivité se trouve à différents endroits que vous n'imaginez peut-être pas. Sophie De Brabant, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous voulez bien vous présenter votre poste à nos auditeurs et nos auditrices?
Oui, alors je suis coordinatrice bibliothèque inclusive pour la bibliothèque départementale de l'Ain. C'est-à-dire que mon rôle, c'est d'accompagner les bibliothèques de l'Ain, les 215 bibliothèques, dans leurs projets en lien avec l'inclusion, l'accessibilité, pour les publics en situation de handicap, les publics qui sont éloignés de la culture, de la lecture, les publics en situation d'illettrisme, adultes et jeunes.
Donc vous l'avez dit, il y a 215 sites sur le département. Comment favoriser l'inclusion sur autant de sites? Parce qu'on imagine que c'est pas, peut-être pas non plus les mêmes publics partout. Comment on fait?
Alors effectivement, comme vous dites, il n'y a pas toujours les mêmes publics. Donc ça va jouer majoritairement en fait dans le choix des dispositifs. Donc par exemple, là, encore ce matin, j'ai une bibliothèque qui me disait qu'ils avaient beaucoup d'enfants 10 dans les classes qui venaient à la bibliothèque, donc que les projets en lien avec la dyslexie les intéressaient beaucoup. Donc je vais les recontacter à ce sujet. Mais il y en a d'autres, c'est plutôt autour de l'illettrisme, parce qu'ils sentent qu'il y a une fragilité dans leur population, à savoir qu'il y a 4% de la population en situation d'illettrisme. Donc il y en a partout, mais parfois on est plus sensible parce qu'on a aussi les partenaires locaux qui viennent, partenaires associatifs, qui se présentent et qui sont demandeurs de projets. Donc en fait, ça joue beaucoup sur les rencontres, le public, et aussi sur les appétences. Donc parce qu'on a... On a rarement le temps de tout mener de front, donc on va tout d'abord aller vers quelque chose qui nous semble le plus pertinent et déjà le plus accessible.
Donc vous vous basez beaucoup, et principalement peut-être, vous vous basez sur les retours des collègues sur le terrain ?
Oui, effectivement. Alors heureusement que mes collègues sont là, bibliothécaires référents, pour me faire des retours de bibliothèque, mais on travaille aussi beaucoup en lien avec les bibliothèques municipales elles-mêmes, qu'elles soient bénévoles ou salariés. Et aussi, ces temps-ci, on travaille de plus en plus avec les partenaires qui nous contactent, et ils savent en fait qu'on a le répertoire de toutes ces bibliothèques, et qu'on a cette force en fait pour travailler avec elles, donc ils viennent nous voir tout d'abord, et ensuite on relaie leurs projets à l'échelle des bibliothèques municipales du département.
Quel type d'ouvrage, des ouvrages adaptés, du coup, vous pouvez proposer ?
Alors, il y a plusieurs choses. On va avoir des ouvrages en lien avec l'édition Jeunesse Accessible. Ce seront des ouvrages à destination des enfants de 3-15 ans en situation de handicap. Alors, on peut avoir des livres tactiles, on peut avoir des livres sonores, des livres pour la dyslexie. On aura aussi des livres qui développent les habiletés sociales. Donc voilà, on a des livres dans ce domaine-là. On peut aussi en avoir en lien avec le dispositif Facile à lire. c'est-à-dire pour accompagner les publics en situation de fragilité linguistique ou de fatigabilité. Donc ce sont des livres de l'édition courante que vous pouvez trouver partout, mais qui ont été sélectionnés par un comité. On peut aussi avoir accès à des livres numériques grâce à notre troisième dispositif Éole en bibliothèque, qu'on travaille en partenariat avec l'association Valentin AUI. Et là, du coup, c'est dématérialisé, ou alors ils peuvent les graver, mais pour une grande partie, c'est dématérialisé. Donc on a tout ça, plus encore le fonds courant qu'on peut trouver absolument partout, c'est-à-dire les gros caractères, les livres lus, voilà, donc... En fait, ça regroupe tout un tas d'adaptations de collections.
Alors, est-ce que vous avez identifié des freins spécifiques à l'inclusion dans les bibliothèques du territoire ?
Alors, les freins, alors, je pense surtout à l'accessibilité du bâtiment. Souvent, les bibliothèques sont dans des locaux qui ne sont pas forcément adaptés. On aura des escaliers, des couloirs étroits, ou alors des étagères trop hautes, trop basses. Ça, c'est un des premiers freins. Voilà, ça... Il faut les accompagner en fait, bah, pour les débloquer, c'est-à-dire trouver des financements, pour trouver des moyens d'accès facilités ou acheter du mobilier adapté. Donc ça fait partie d'un des freins, l'accessibilité. Non, mais en réalité, je pense que de très très nombreux freins sont facilement contournables, où on peut faire de nombreuses choses et créer une bibliothèque accessible à tout le monde. Parce que nous, on est là pour accompagner, on travaille avec les élus, on travaille avec les équipes, avec des personnes professionnelles concernant l'accessibilité. Donc, ces freins, s'il y en a, on peut toujours faire quelque chose pour les lever.
Est-ce que vous avez un message en particulier à faire passer au public qui peut-être n'oserait pas passer la porte de la bibliothèque ?
Alors, les bibliothèques, comme on le dit souvent, c'est pour tous, pour tous les publics. Qui que vous soyez, quels que soient vos besoins, les bibliothèques sont là pour vous. Vous y trouverez des services, des offres qui vous conviendront. Et dans l'Ain, de plus en plus. Et on est très fiers d'avoir un réseau vraiment très volontaire dans le domaine de l'inclusion. Parce qu'actuellement, on est quasiment à une bibliothèque sur cinq qui propose des dispositifs en lien avec l'inclusion, ce qui est énorme parce que ce sont des choses relativement récentes. Rien que mon poste, il n'a que 2 ans, donc je veux dire, on se lance dans tous ces dispositifs depuis très peu. Et donc voilà, on est là pour vous et n'hésitez pas à franchir la porte. Et si vous ne trouvez pas ce que vous voulez, demandez-le aux bibliothèques. On est là pour vous accompagner, on est là pour vous.
On retient que les spécificités des publics et la curiosité des bibliothécaires sont au centre de l'amélioration de ces lieux ressources soutenus par les dispositifs de la bibliothèque départementale de l'Ain. Pour aller encore plus loin sur l'inclusivité dans le monde du livre, Christine Loquet, bibliothécaire, formatrice, enseignante associée à l'Université Rennes 2 sur les thématiques de l'inclusion, de l'accessibilité et de l'accès à la lecture, a répondu à nos questions. Vous venez de présenter la conférence intitulée « Inclusion en bibliothèque ». Pouvez-vous expliquer pour nos auditeurs de quoi parle-t-on vraiment quand on évoque l'inclusion en bibliothèque ?
La notion d'inclusion, bah, c'est une question difficile là, que vous me posez, parce que moi je ne suis pas forcément très très à l'aise avec ces notions, j'ai toujours besoin de la redéfinir. La notion de bibliothèque inclusive renvoie autant à la notion d'inclusion qui est liée aux lois sur le handicap, c'est-à-dire faire en sorte que les personnes concernées par des handicaps soient bien présentes dans les groupes. On peut prendre l'exemple de l'école inclusive. Puis il y a aussi la notion d'inclusivité qui est plus large et qui va, elle, pouvoir répondre aux questions sur toutes les minorités, à la prise de parole des minorités elles-mêmes, que ce soit des minorités liées à des handicaps, à des troubles, ou que ce soit les minorités de genre, minorités sexuelles, les minorités aussi d'appartenance ethnique, par exemple.
Ok, donc au-delà du handicap, les minorités, et si j'ai bien compris, l'inclusivité, c'est le faire ensemble, faire avec ?
Voilà, c'est prendre en compte les personnes, quelle que soit la minorité à laquelle elles appartiennent, et puis si on pense à des dispositifs, à des outils qu'on va vouloir développer par exemple en bibliothèque, puisque c'est le sujet de la journée, travailler avec les personnes, en tout cas faire en sorte que ces personnes soient représentées dans les groupes de travail, dans les réunions, pour qu'elles donnent leur avis. Elles sont les mieux placées pour pouvoir dire quels sont leurs besoins.
Alors pour compléter, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la démarche Facile à lire ?
Facile à lire, c'est une démarche qu'on a introduite depuis la Bretagne en 2013-2014 pour les bibliothèques publiques. Les démarches Facile à lire, c'est une réponse qu'on a souhaité apporter pour les adultes avec des difficultés du type illettrisme dans un premier temps. C'est-à-dire que le constat était que nous, bibliothécaires, on a des réponses qu'on peut apporter aux enfants sur la prévention de l'illettrisme, donner le goût de la lecture par exemple. On va sortir des bibliothèques et on va proposer ce qu'on appelle des bibliothèques de rue. Par contre, quand il s'agit de s'adresser à des adultes qui ont perdu le goût de lire, qui ont perdu les compétences de lecture, parce que ça arrive, ça s'appelle l'illettrisme. On estimait, il y a 10 ans, qu'on n'avait pas de réponse vraiment en bibliothèque. On ne savait pas trop comment faire et vers quel livre les emmener. Du coup, nous avons développé ces démarches-là, qui sont d'abord des espaces dédiés dans les médiathèques, avec des livres tout à fait spécifiques, qui vont être des livres sans texte, des livres audio, des livres pour les adultes, mais des livres faciles à lire, puisque c'est bien l'objet. Ou des livres qui vont ressembler à des albums, mais à des albums avec l'intention de s'adresser à des adultes. Et donc, ce sont des espaces avec des livres choisis, avec une manière de présenter particulière. Donc, on évite des aspects techniques en bibliothèque qui vont être des livres dans les travées avec des cotes sur la tranche des livres, avec des numéros, par exemple, parce que ça, c'est déjà un gros frein à l'accès. Et puis autour de ça, du partenariat, parce que pour faire venir des adultes avec des difficultés de lecture, il va falloir s'adosser à des partenaires qui accueillent ces publics, par exemple des centres de formation pour les adultes allophones ou avec des difficultés à lire, ou des centres de formation qui font de la formation pour les personnes avec illettrisme. Et puis encore autour de ça, de la médiation. Enfin, vous voyez, on développe des choses pour que tout ça vive. Je crois qu'aujourd'hui, il y a 500 médiathèques en France environ qui ont développé des gros projets qu'on nomme maintenant FAL, facile à lire. Le ministère de la Culture s'en est emparé à partir de 2017-2018.
En quoi les bibliothèques ont-elles un rôle central à jouer en matière d'inclusion ?
Les bibliothèques ont un rôle à jouer, je dirais, parce que ce sont des espaces publics, ouverts à tous et à toutes, et avec une responsabilité de s'adresser au plus grand nombre d'entre nous, en fait, y compris aux personnes qui sont peu à l'aise et qui n'ont pas d'habitude culturelle.
Et puis, pendant la conférence, il y a plusieurs reprises, les lois ont été évoquées. Donc, en fait, il y a aussi une obligation, finalement.
Oui, il y a une obligation. Alors, le cadre législatif, il reste large. Mais en effet, il y a des lois. Il y a des lois sur l'accessibilité des bâtiments. Ce sont les fameuses lois de 2005 sur le handicap. Et dans notre secteur à nous, il y a 2 textes. Le plus ancien, qui était trop large et qui n'était pas suffisant pour nous, qui est le manifeste de l'UNESCO. Plus récemment, fin 2021, une loi sur les bibliothèques, qui est la loi Robert, Sylvie Robert, c'est une sénatrice. Et dans son premier article, il est question d'inclusion, donc de l'accès à tous et à toutes. Et ça va même plus loin, assez vite, sur les questions des droits culturels. Voilà, on a un cadre législatif maintenant suffisant pour permettre de répondre à des élus, par exemple, dans nos collectivités, qui pourraient nous dire « oui, mais bon, le bâtiment n'est pas accessible, mais bon, oh, écoutez, on verra ça plus tard, ou on a d'autres priorités ». Ben non, il y a une loi qui s'applique à tous les établissements publics, les bibliothèques ne font pas exception, et en plus, dans notre milieu, étant donné qu'on a développé pas mal de choses sur cette question de l'accessibilité et de l'inclusion, ils ont intérêt à le faire quand même.
Donc ça ne doit pas être évident de repérer les empêchements. On imagine que les gens n'arrivent pas avec une demande en montrant leurs difficultés, qu'elles soient sociales ou cognitives. Comment on fait sur le terrain pour repérer ?
C'est une grande question. En effet, alors il y a certains troubles ou handicaps qu'on voit. Pour certains autres, en effet, c'est peu visible, voire invisible. Et là, à nous de... J'ai envie de dire de prévoir des choses discrètement ou moins discrètement. C'est toute l'importance des espaces dédiés, des collections, particulière, moi et tous mes petits camarades qui portons ces sujets-là nationalement, on a tendance à souhaiter que les bibliothèques développent des espaces qu'on appelle lire autrement, qui vont être des espaces avec des collections particulières, parfois des matériels d'accessibilité qui peuvent être des matériels tout simples, hein, une loupe de lecture, des réglettes de lecture, ça ne coûte rien, mais on met à disposition des outils qui vont faire que les personnes entrant dans nos lieux vont pouvoir se sentir accueillies parce qu'on a pensé à elles. Si les salariés des bibliothèques sont un peu formés, un peu sensibilisés à ces sujets-là, sur les postures d'accueil, déjà, on va gagner du temps.
Alors, je voudrais juste finir par une notion qui m'a interpellée aussi pendant la conférence et que je trouve pas si anecdotique que ça, finalement. C'est cette notion de bon et de mauvais goût par rapport à la culture. Donc, comment justement passer peut-être outre nos références pour justement pouvoir inclure tout le monde ?
Merci de me poser cette question parce que j'avoue que moi, elle me tient très à cœur, cette question-là, professionnellement et aussi pour des raisons personnelles de milieu d'origine aussi. Il y a un de nos grands penseurs des bibliothèques qui s'appelle Dominique Lahari qui a dit que quand on entre dans une bibliothèque, il faudrait qu'on puisse se trouver en terrain connu, c'est-à-dire je rentre, je vois des références, enfin je retrouve des éléments de ma culture. Il me semble qu'une de nos responsabilités, ça n'est pas de préjuger des goûts des autres. C'est pas simple comme exercice parce qu'on a tous tendance à vouloir le meilleur pour tout le monde et peut-être un peu ouvrir les horizons. Il y a des goûts qui sont des goûts de classe, ça c'est vraiment l'enseignement des grands sociologues, Bourdieu, Bernard Lahire, entre autres. C'est nécessaire de sortir de ce prisme-là de goûts de classe que nous, on reproduit dans notre milieu à travers notre culture professionnelle que j'intitule, moi, avec un peu de malice, la culture Télérama, c'est-à-dire des goûts communs, en gros, là, dans le milieu de la culture et qu'on reproduit malgré nous. Mais attention à ne pas exclure les goûts des autres. Et la culture définie par les cultureux, c'est une culture qui, si elle est trop étroite, exclut, malheureusement. Et c'est là où peut se nicher l'élitisme. Voilà.
Christine Loquet, merci beaucoup.
Merci à vous.
Prendre en compte les personnes, quelle que soit la minorité à laquelle elles appartiennent, une perspective réjouissante pour le monde de la culture en général et celui du livre en particulier. Alors n'hésitez plus, franchissez la porte de votre bibliothèque locale et demandez des renseignements ou un soutien à vos bibliothécaires. Vous écoutez L'un dans l'autre,
le mag d'info locale
sur Radio B. L'un dans l'autre, c'est terminé pour la saison. Merci Elsa.
Merci Perrine, merci Jimmy à la technique et merci à vous pour votre écoute.
On se retrouve en septembre prochain pour une nouvelle édition de votre magazine d'info locale.
Et même en vacances, restez bien à l'écoute des bonnes ondes de Radio B.
En ligne ou sur 90 FM. L'un dans l'autre,
l'info qui vous engage, animée par
Perrine
et Elsa.